J'ai le grand plaisir d'accueillir quelqu'un qui connaît fort bien Manosque pour y avoir été résident et pour venir aussi plusieurs fois aux correspondances. C'est Miguel Bonnefoy. Bonjour Miguel.
Bonjour.
Avec la publication de L'Inventeur qui est parue aux éditions Rivage, Manosque connaît bien aussi l'écrivain franco-vénézuélien pour y être venu plusieurs fois et surtout y avoir fait une résidence en 2018, tout juste auréolé du prix Patrimoine 2022. Miguel Bonnefoy succède ainsi à Louis-Philippe d'Alembert, un autre habitué des correspondances qu'il avait obtenu l'année dernière pour son roman Milwaukee Blues. Félicitations, Miguel.
Merci beaucoup, merci.
Alors, cette année, Miguel vient présenter un personnage attachant, inventeur génial mais oublié qu'il fait revivre avec brio. C'est l'homme qui devait inventer l'application industrielle de la chaleur solaire. Augustin Mouchot est fils de serrurier dans la France profonde du XIXe siècle, souffreteux et toujours malade, il découvre la chaleur solaire à travers un livre. Ce sera l'obsession de sa vie. Je veux creuser une mine dans le soleil, dit-il, page 42. D'expérience en expérience, il arrive à créer un four solaire qui intéresse les militaires, par exemple, qui pourraient ainsi faire cuire des aliments sans feu et donc ne pas se faire repérer de l'ennemi. Grâce à l'énergie solaire, il arrivera aussi à fabriquer de la glace, une prouesse pour l'époque. Son ascension démarre, il exposera son projet devant les sommités et jusqu'à l'empereur Napoléon III. Il va même écrire son propre livre scientifique, La chaleur solaire. Hélas, la guerre avec la Prusse éclate, puis la Commune, qui relègue sa publication aux arrière-plans. Il teste ses machines en Algérie dans une chaleur extrême pour toucher le soleil du doigt, dit-il, risquant sa vie, perdant la vue, pour mieux conclure ses expériences. De succès en échec, il connaîtra la gloire à l'exposition universelle de 1878, puis la misère, et finira oublié, aveugle et malade en 1912, à l'âge de 87 ans. Première question, Miguel, pourquoi avoir choisi Augustin Mouchot?
Eh bien, j'ai trouvé que ce personnage était suffisamment paradoxal pour donner un bon récit. Il était suffisamment oxymorique pour donner un bon récit. Il est un être froid, chétif, flegmatique, ramolli par la vie, sévère et austère, et il s'intéresse justement à son opposé, au soleil, à la lumière, à la vie, à l'astre le plus grand, enfin à tout ce qui est olympien et wagnérien. Donc je me suis dit qu'il y avait là quelque chose d'assez beau sur cette espèce de moucheron ivre qui essaye de conquérir quelque chose qui, quoi qu'il arrive, le dépasse.
Avec évidemment la verve qui vous caractérise au niveau des écrits, je vais vous lire un court extrait, il n'est pas si court quand même, qui va vous expliquer un petit peu la jeunesse de ce personnage très particulier d'Augustin Mouchot. Il resta ses 3 premières années au lit. Jamais il ne vit la lumière du jour, muré dans l'ombre de sa chambre, veillé par sa mère à la torche. Cette carence de vitamines s'accentua par la venue de l'été et couvrit sa peau d'une constellation de boutons rouges, de squames sèches, de fétides inflammations en plaques arrondies. On appela des guérisseurs et des rebouteux qui lui appliquèrent de l'huile de chalumeau et lui attachèrent une cloche autour du cou, persuadé qu'il était atteint de lèpre. Ce fut un médecin de Dijon qui, entrant par hasard dans la serrurerie de son père, l'examina avec plus d'attention et déclara qu'il ne s'agissait pas de lèpre, mais d'un trouble épidermique dû au manque de soleil. Selon ses conseils, on assit le petit Augustin au milieu de la place à 3 heures de l'après-midi, en pleine canicule, pour faire sécher ses plaques, mais l'excès soudain de chaleur lui provoqua une insolation brutale, ses boutons grossirent et il dut passer sa 4e année, le corps badigeonné de miel et de portions de serpolet, et de potions de serpolet, pardon. À 5 ans, il ressemblait à une momie lugubre, immobile et livide, ravagée par les remèdes. Lorsqu'il faisait une sieste trop longue, il craignait qu'on ne l'enterre vivant. C'est pourquoi, dès qu'il sut écrire, il prit une habitude qu'il ne quitta jamais et laissa toujours avant de s'endormir une note prudente sur sa table de chevet. Bien que j'en aie l'air, je ne suis pas mort. Ce seront les derniers mots de votre roman, d'ailleurs, Miguel.
Absolument.
Et c'est ce qui a guidé sa vie aussi, de dire, je suis pas un cadavre et je suis vivant.
C'était à la fois un pied de nez de sa propre vie, bien entendu, puisque c'était un homme très maladif, très souffreteux, qui tout à coup essaye comme il peut de revivre dans ce siècle lumineux, fascinant, plein d'inventions et de découvertes, essaye comme il peut de passer par-dessus ce siècle, et d'un autre côté se rend bien compte que son corps eh bien, n'est pas du tout à la mesure de l'entreprise désespérée dans laquelle il s'est lancé. Mais c'est également un pied de nez envers le lecteur et envers l'histoire, puisque d'une certaine manière, eh bien, le fait d'écrire un livre sur lui fait que, bien qu'il ait l'air mort, puisqu'il est mort en 1912, eh bien, il reste quand même un petit peu vivant, puisque j'essaye d'exhumer de l'oubli sa figure.
C'est la magie de la littérature.
Absolument, absolument.
Bien. Donc après l'enfance, il y a l'adulte, futur savant qui arrivera à produire de la glace grâce à l'énergie solaire. L'époque le considère comme un magicien, vrai sorcier scientifique. Comment vous êtes documenté sur ce personnage, Miguel ?
Il y a peu d'informations sur lui. Lorsqu'on regarde sur Internet, Wikipédia, il n'y en a que 5 lignes. Et personne n'a écrit de roman sur lui, personne n'a écrit de biographie sur lui. Il n'a intéressé ni l'académicien, ni les poètes. À aucun moment il n'a été sujet ou le thème de grandes œuvres. Il n'a pas non plus de film, vraiment rien sur lui. Ce que j'ai fait, c'est de glaner la plus grande quantité d'informations en allant dans les archives municipales d'Indre-et-de-Loire à Tours, là où il a été au lycée Descartes et où il a été professeur de maths, donc j'avais peut-être la possibilité d'avoir des informations sur lui. Également à Alençon, où il a vécu pendant un temps. Également à Dijon, puisque c'était un homme de Semur-en-Auxois, bourguignon, donc à Dijon, on retrouve quelques traces de ses années de collège et de lycée, donc ça me permettait également de me rendre compte quel élève il avait été. Également à Pierrefitte, à Saint-Denis, où il y a toutes les archives des expositions universelles au Palais de Trocadéro. Donc ça me permettait également d'avoir tout le pan de 1878 sur Mouchot. Et à Aix-en-Provence, où sont les archives des colonies françaises, où je pouvais peut-être retrouver quelques traces de son errance mystique en Algérie, où on l'envoie là-bas pour essayer de fleurir le désert avec un système d'héliopompe pour relever les nappes phréatiques et irriguer les agricultures.
Et donc, vous avez même vu une de ces machines entièrement rouillée.
Tout à fait. Alors, il y en a deux. J'en ai vu une à la tour de l'Orle d'Or à Semur en Auxois, qui est un endroit adossé à l'Académie des sciences et qui m'a permis de me rendre compte à quoi ça pouvait ressembler. Et il y en a également une autre au Musée des Arts et Métiers à Paris, pas loin de la place de la République, où on trouve aussi une de ces machines. Donc, ça me permettait d'avoir deux machines, me rendre compte plus ou moins à quoi elles ressemblent et préciser alors les descriptions.
Très peu de lettres, très peu de documents, très une peu. Seule photo, etc. Absolument. Donc un mystère total autour de ce personnage. Oui. Et en 1876, Augustin Mouchot fait une rencontre cruciale avec Abel Piffre, un jeune centralien qui sera son associé avant de « pirater » entre guillemets ses découvertes et ses brevets. Il retrouve à la fin de sa vie Pierrette, oui, une sorte d'ogresse qui lui est apparue en rêve 30 ans auparavant. Entre-temps, le charbon devient la première source d'énergie de la planète, écartant les découvertes de Mouchot, ce qui aujourd'hui prend une toute autre résonance. C'est sa revanche à Mouchot aujourd'hui ?
Et quelque part, oui, c'est absolument une forme de revanche, et bien qu'il n'ait pas été non plus le père du photovoltaïque, il n'a pas été le père du panneau solaire. Son invention était essentiellement celle de pouvoir chauffer de l'eau pour faire de la vapeur et donc actionner une machine à vapeur, et ceci sans charbon ou sans bois. Donc quelque part, il est à la fois précurseur et pionnier de l'énergie solaire, mais d'une certaine énergie solaire qui est celle qui est actionnée avec une machine à vapeur. C'est-à-dire, il n'invente rien, ce qu'il fait c'est coupler deux machines, son miroir parabolique avec la machine à vapeur.
Alors, vous avez résidé ici même à Manosque en 2018, Miguel. Vous connaissez le projet mondial ITER, de vouloir recréer par la fusion nucléaire l'énergie solaire. Ce sont les fils spirituels ou techniciens, je ne sais pas comment dire, mais de Mouchot ?
Quelque part, oui. En effet, des Mouchot, disons qu'il y en a beaucoup. Il y a des activistes, il y a des militants, il y a des personnes qui essayent comme ils peuvent d'essayer de trouver de nouvelles énergies qui soient plus vertes, qui soient plus responsables, qui soient plus circulaires, qui soient plus renouvelables. Et tous ensemble essayent comme ils peuvent d'être les allégories de demain, en montrant qu'un siècle nouveau est possible, qu'une nouvelle manière de concevoir des révolutions industrielles ou d'économie de marché marchés sont encore possibles et ceci passe par l'énergie. Et j'ai essayé dans le livre de ne pas tomber dans l'écueil classique de vouloir tirer la couverture écolo de mon côté en faisant sans cesse des correspondances avec les problématiques climatiques d'aujourd'hui et essayer de mettre l'inventeur dans une sorte de continuité logique non, de toute cette histoire. Au contraire, je me suis dit je vais aller faire une bulle onirique où j'allais parler de ce personnage et le lecteur serait suffisamment malin pour pouvoir faire les connexions lui-même.
Et il le fait avec grand plaisir, un grand bonheur, en suivant votre style particulier. Alors justement, parlons-en de votre style et de la verve de votre langue. J'ai choisi un extrait du roman « Quand Mouchot, auréolé de ses découvertes, retourne en Algérie pour peaufiner celle-ci. Arrivé au port algérien, il fut surpris de l'accueil, encore plus enthousiaste que la première fois. Les bourgeois, les scientifiques et les personnalités politiques accoururent vers lui par centaines pour l'approcher, l'interroger, l'inviter. » La presse en parla et pendant les 3 mois qui suivirent son débarquement, jamais un savant ne fit couler autant d'encre et jamais son nom ne fut prononcé autant de fois. Les poètes s'en mêlèrent, les revues universitaires aussi. Un prêtre de la bibliothèque théologique de l'église d'Alger trouva quelque part un calendrier où l'on annonçait sa venue, mais on abandonna rapidement cette théorie quand on se rendit compte que Mouchot, comme la majorité des scientifiques, était libre penseur. On l'amena aussitôt au ministère de l'Agriculture et du Commerce, le 20 février 1879, devant 200 personnes rassemblées dans la grande salle, sous un lustre hollandais d'une tonne et demie, on le fit chevalier de la Légion d'honneur. Ce fut le général Bardin, commandant de la division d'Alger, qui la lui remit avec un sérieux digne d'une cérémonie funèbre, et lui dit d'une voix ferme, en lui épinglant l'insigne sur le côté droit de la poitrine, « Vous êtes au soleil ce que cette médaille est à la nation. » Bravo, Miguel.
Merci.
Il y a beaucoup d'humour dans votre livre. Et puis en même temps, c'est de l'humour noir parce que juste après cette réception, c'est la chute, quoi.
Absolument.
La chute d'Icare, quasiment.
C'est absolument icaresque, c'est absolument prométhéen. Et d'ailleurs, j'avais vraiment envie de donner à ce personnage cette épaisseur mythologique. Je n'avais pas du tout envie de faire un roman très Second Empire, très noir et blanc, très Napoléon III, en essayant de reprendre tous les codes de la littérature 19e classique, avec Zola et Balzac, non ? Et la splendeur et la misère de quelqu'un. Et... Sinon, au contraire, d'essayer de faire des lectures qui étaient beaucoup plus dans les récits fondateurs, pour voir si je pouvais donner un relief qui soit plus dans les héros providentiels. Et ceci peut-être, en effet, se voit avec ce style que j'essaie de faire, qui est un peu, un peu céleste, comme ça, hein, que j'essaie de donner un peu un côté dans les hauteurs.
Oui, et avec cette oralité, ce discours d'une cérémonie funèbre.
C'est ça.
C'est magnifique.
Voilà,
c'est
merci
magnifique.
Beaucoup, merci beaucoup. Et en même temps, c'est, comme vous dites, plein d'humour, parce que c'est se moquer un peu de soi-même, non, et tourner en dérision le propre personnage qui, lui, de toute façon, n'arrivera pas à conquérir le soleil, mais croit que son entreprise a quelque chose de cosmique, non. Donc il y a quelque chose de très drôle dans cette affaire.
Et on a tout le peuple autour qui dit, ah, ben peut-être qu'on a la solution.
Voilà,
on verra, on verra.
Exact, on verra, on verra. Et puis finalement, il meurt dans la misère, dans la solitude. Plus personne n'entend parler de lui, donc en fait il y a quelque chose de très drôle. C'est
alors,
un gag presque.
On connaît bien votre œuvre, on connaît bien vos romans, on vous connaît bien aussi personnellement. Le voyage d'Octavio, Jungle, Sucre Noir ou encore Héritage. Dans vos romans, il y a toujours une ou deux scènes où le fantastique s'invite. Un cataclysme au pays du Rhum, un spectre qui enfante une lonçonnier par exemple, c'est un peu votre marque de fabrique, mais c'est plus discret dans votre dernier livre où seul l'apparition de Pierrette contient cette part de fantastique. Pourquoi ?
Oui, c'est une belle question et bravo. En effet, j'ai toujours aimé injecter un peu de magie, de surnaturel dans les livres pour essayer de montrer qu'il y avait une sorte de porosité possible en littérature entre l'inconnu, l'étonnant, comme ça, le mystérieux, l'étrange et le monde réel. Et bien sûr que dans les autres livres, peut-être parce que c'était davantage dans un univers caribéen et tropical, il était plus simple de légitimer cette présence dans l'imaginaire collectif littéraire qu'on imagine. Cependant, eh bien ici, avec Mouchot, le livre était basé sur des faits très réels, avec une histoire très précise, avec un ancrage qui est archiviste. Et donc, c'était beaucoup plus compliqué pour moi de pouvoir injecter du surnaturel.
Mais alors, vous avez quand même mis Pierrette.
Quelque part, exact. Je me suis permis. Alors, Pierrette a réellement existé.
Oui,
Pierrette Baudier a réellement d'exister. Enfin,
toute la fin. Est-ce qu'il arrivait à Pierrette?
Alors, est-ce qu'il arrivait à Pierrette? Sans doute pas, si vous voulez. Mais je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'une sorte de prédestination de la fin, une sorte de prolepse de sa propre vie dans lequel lui-même aurait vu en rêve l'annonce de sa fin. Et je trouvais que ça montrait encore une fois cet aspect un peu mythologique du personnage de Thésée ou de Persée, qui lui va rêver sa propre fin, ou à qui, le jour de sa naissance, on va lui dire comment il va finir. Donc j'aimais cette idée, non, d'une sorte de ananke, quoi, d'une destinée humaine, quoi, d'un fatum. Et cette fatalité m'a plu suffisamment pour pouvoir l'intégrer comme ça, d'une façon un petit peu subtile dans le livre.
Il y a aussi des petits cailloux blancs chez Miguel Bonnefoy. Ce sont des lonçonniers qui reviennent de temps en temps, des René Michel, etc. Enfin bon, c'est un bonheur que de vous lire. L'inventeur Miguel Bonnefoy, c'est aux éditions Rivage. Je sais que vous allez partir en courant parce que vous êtes dans l'apéro littéraire. C'est dans un quart d'heure, Miguel.
Parfait.
Donc il va falloir partir. C'est un bonheur pour moi de vous avoir eu ici même.